Alors maintenant, pour vous aider à bien suivre cette retraite, pour vous endormir ce soir sur de bonnes pensées, je voudrais vous mettre sous les yeux très rapidement l'exemple de notre Seigneur. En effet, notre Seigneur est notre modèle, toute la vie du catholique, ça doit être d'imiter notre Seigneur. Si notre Seigneur a pris une nature humaine comme la nôtre, c'est pour qu'on ait un exemple sensible que l'on puisse suivre. Et on voit que notre Seigneur, le jeudi saint, a lavé les pieds de ses disciples. Et après, il leur a dit, comprenez, vous, ce que j'ai fait. Vous m'appelez maître et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que notre Seigneur, dans sa vie, a posé des actes concrets dans le but de nous servir de modèle. Donc notre Seigneur connaît notre nature humaine, il sait bien qu'on a du mal à rester toujours dans la ferveur, il sait que malgré nos bonnes résolutions, on a tendance parfois à se relâcher, et donc il sait qu'on a besoin, de temps en temps, de nous renouveler dans la ferveur. Et c'est la raison pour laquelle il a voulu lui-même nous donner l'exemple, en fait, d'une retraite. Vous voyez, la retraite, ça n'a pas été inventé par les jésuites ou par les dominicains. Notre Seigneur lui-même a passé 40 jours en retraite. Donc c'est la première retraite, a duré 40 jours. En vous, 5 jours, ça va. Jésus, plein de l'Esprit Saint, est-il dit en Saint-Luc, fut conduit par l'Esprit dans le désert pendant 40 jours et il fut tenté par le diable. Donc ici, c'est étonnant de voir que notre Seigneur a passé ainsi 40 jours au désert. On se dit, il n'avait pas besoin de se sanctifier puisque notre Seigneur était parfaitement saint. Donc s'il a voulu, lui, passer 40 jours ainsi dans le silence de la retraite, c'était pour nous apprendre à aimer nous-mêmes ce silence. Il sait très bien qu'on a tendance, dans la vie de tous les jours, à être pris par mille et une activités. Donc il sait très bien qu'on a besoin de se reposer de temps en temps en Dieu. Et donc c'est pour cela qu'il a voulu lui-même nous montrer l'exemple. Et si cela était vrai à toute époque, c'est encore plus vrai aujourd'hui. L'homme moderne a une nature qui est fragilisée. Nous sommes tous plus ou moins atteints par cette vie trépidante aujourd'hui, et puis en même temps aussi par cette agressivité de ce monde qui vit loin de Dieu. Et donc on a besoin de temps en temps de prendre du recul pour retrouver ses repères. Et c'est là le but d'une retraite. Notez que notre Seigneur a été conduit par l'Esprit Saint. Et donc c'est l'Esprit Saint qui doit être l'âme de la retraite. C'est aussi ça, c'est très important, et on le voit bien d'ailleurs dans une retraite qui est bien faite. Vous entendrez toutes les mêmes instructions, mais vous ne retirerez pas toutes les mêmes fruits de ces mêmes instructions que vous entendrez. Pourquoi cela? Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit être l'âme de votre retraite, et nous on est simplement là pour vous mettre sur des pistes. Et ensuite, en fonction de votre degré de vie spirituelle, en fonction de vos besoins, en fonction de vos inquiétudes, eh bien, le Saint-Esprit vous touchera de telle ou telle autre manière, par telle prédication, par tel moment de silence, ou par telle lecture de table. Donc, à vous d'essayer d'être docile au Saint-Esprit. Et donc, nous-mêmes, voyez, prêtres, on est là tout simplement pour vous aider à vous mettre dans une certaine atmosphère pour faciliter l'action de l'Esprit-Saint. Mais c'est évident que c'est le Saint-Esprit qui doit agir dans votre âme. Et pour cela, il y a quand même des conditions qu'il faut remplir. Parce que c'est évident que le Saint-Esprit ne parle pas dans l'agitation, et il ne parle pas dans le bruit, que ce soit le bruit extérieur ou le bruit intérieur. Vous voyez, il est écrit au livre d'Osée, c'est Dieu qui parle, « Je la conduirai au désert et je lui parlerai au cœur ». Eh bien, ça résume bien aussi ce que Dieu veut faire dans votre âme au cours de cette retraite. Il veut vous conduire au désert pour vous parler au cœur. Mais pour vous parler au cœur, il faut vous conduire au désert. Donc le désert ici symbolise en fait cette solitude en fait de votre âme par rapport à Dieu. Voyez, au moment de mourir, on meurt seul. Au moment de mourir, eh bien, on n'est pas accompagné de ses amis, même si les amis sont là pour nous soutenir. Et donc on se retrouve seul face à Dieu. Eh bien, je pense qu'une bonne retraite, c'est justement ce face-à-face avec Dieu qui nous aide en toute sérénité à nous voir comme Dieu nous voit, pour voir ce qu'il faut faire pour être toujours moins indigne de lui. Donc Dieu parle dans le silence. Donc une des grandes règles de la retraite, on vous l'a dit déjà pour celles qui ont fait plusieurs retraites, et même les autres, vous le savez bien. Donc il faut penser que si on vous demande le silence, Ce n'est pas pour une espèce de discipline spartiate, pour avoir la tranquillité. On sait que les femmes bavardent, donc on leur demande de se taire, comme ça, on a la paix. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas à ce niveau-là, si vous voulez, qu'on se place en vous demandant le silence. Ce n'est pas pour avoir la paix et être tranquille. C'est pour que vous-même, vous puissiez entendre la voix de Dieu. On voit cela encore dans le livre de la Sagesse, ce passage qui a été choisi comme introit du dimanche dans l'octave de Noël. Il est dit « Alors qu'un profond silence enveloppait toute chose et que la nuit était au milieu de son cours, votre parole toute puissante est venue du ciel. » Donc la parole toute puissante qui est venue du ciel, c'est le Verbe de Dieu. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, c'est notre Seigneur. Et il est venu dans ce monde la nuit de Noël, donc au moment où il y avait ce silence de la nuit. Mais en même temps, on peut très bien appliquer cela aussi à la retraite. Alors qu'un profond silence enveloppait toute chose et que la nuit était au milieu de son cours, votre parole toute puissante est venue du ciel. Voulez-vous entendre la parole de Dieu venue du ciel? Il y a des conditions à remplir et la condition c'est de ce profond silence. Silence extérieur et silence intérieur. Donc silence extérieur, silence de la langue. Alors il y en a toujours qui se disent, bon, d'accord, silence de la langue, d'accord, mais enfin j'en profiterai avec les yeux. Ben non, silence des yeux aussi, c'est peut-être encore plus dur. Et puis surtout, silence intérieur. Et c'est ça le plus important, et c'est peut-être le plus difficile. Donc c'est vrai que peut-être que vous êtes parti un peu précipitamment, donc vous dites, ah mince, est-ce que j'ai donné toutes les consignes, est-ce qu'ils ont bien compris, et puis si ceci, c'est là. Donc, maintenant que vous êtes parti, donc faites confiance. Bon, si vraiment il y a quelque chose de très important que vous avez oublié, vous pouvez venir me voir, et vous pourrez téléphoner demain matin, mais ne psychotez pas là-dessus. Donc essayez de bien vivre l'instant présent sous le regard de Dieu. Vous voyez, c'est un petit peu une expérience de la vie. Normalement, si on veut vivre sereinement notre existence ici-bas, il faut essayer d'apprendre à vivre l'instant présent. Dans la vie, on a du mal parce qu'il y a mille et une choses à penser. Une femme est toujours obligée de penser à mille et une choses. Eh bien, là, profitez-en. On s'occupe de vous, donc vivez bien l'instant présent. Alors ne vous étonnez pas non plus de ne pas y arriver tout de suite. Certaines retraitantes arrivent à se plonger tout de suite dans une retraite parce que peut-être elles ont eu quelques vacances avant déjà ou parce qu'elles ont aussi une vie spirituelle plus profonde, c'est possible. Et d'autres, il en faut plus de temps. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes comme vous êtes, le bon Dieu vous aime comme vous êtes et donc tenez compte de ce que vous êtes et donc ne vous étonnez pas de ne pas y arriver tout de suite. Il ne s'agit pas de vous crisper, de vous tendre pour essayer « Ah mince, je voudrais mettre en silence, j'arrive pas à... » Ce n'est pas le but. Le but, c'est ce silence, mais il faut essayer de le faire sereinement, calmement. Donc, s'il faut 48 heures, il faut 48 heures. Hein. Donc, le bon Dieu peut très bien vous parler pendant les trois derniers jours. Donc, les efforts que vous essayez de faire, sans crispation, sans tension, pour essayer d'être tout à lui, sont méritoires. Et si, donc, vous êtes ainsi dans ce désert, c'est pour prier Dieu. Et là, dans la prière, vous pourrez constater que, comme dans toute vie chrétienne qui est équilibrée, vous aurez certainement, pendant la retraite, à certains moments, le plaisir de la prière. À ce moment, vous aurez aussi plus de mal à prier. C'est dans l'ordre des choses. De la même manière qu'il est nécessaire qu'il y ait de la pluie et du soleil pour que les plantes puissent... se développer. De la même manière, notre âme également, pour être vraiment ce que le bon Dieu attend d'elle, elle a besoin et de ce goût à la prière, heureusement qu'on a le goût à la prière parce que sinon la vie sur terre serait difficile, mais on a aussi besoin de connaître certaines aridités dans nos prières parce que dès lors qu'on a trop de facilité, on peut avoir tendance à s'endormir ou aussi encore à se croire meilleur que les autres. Et donc on a aussi besoin de moments plus difficiles. Donc prenez ce que le bon Dieu vous donne. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile aujourd'hui que ce sera difficile forcément pendant 5 jours. Donc psychotez pas pour demain. Donc portez aujourd'hui la croix d'aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est que notre Seigneur, c'est quand il a été au désert précisément, qu'il a été tenté par le diable. Alors, ça peut paraître bizarre parce que on se dit on se rapproche de Dieu. Donc, si on se rapproche de Dieu, on s'éloigne du diable, normalement, vous voyez. Eh bien non, d'une certaine manière, le démon, bien sûr qu'il n'aime pas les retraites et il n'aime pas voir une âme qui cherche à se sanctifier. Donc, il risque de mettre les bâtons dans les roues. Mais maintenant aussi, il ne faut pas forcément mettre le diable à toutes les sauces. Hein. Il y a parfois d'autres motifs qui font qu'une retraite peut être plus ou moins difficile. Il y a des causes parfois même simplement physiques. Bah, il fait assez chaud en ce moment. Bon, on verra comment ça va tenir pendant la semaine. J'espère que le temps va se rafraîchir. Mais donc, il arrive, voyez, que quand on vit à 100 à l'heure pendant l'année, eh bien, on commence à se reposer. Et au moment où on commence à se reposer, c'est là que les nerfs commencent à lâcher. Et c'est là où on est le plus fatigué. Donc, c'est comme ça. Donc, il peut y avoir difficulté donc, à la prière, difficulté de vraiment vous plonger dans les méditations à cause, donc pour une cause simplement physique. Pour d'autres, ce seront des causes psychologiques. Certaines âmes qui sont un peu plus fragiles, eh bien, le silence favorise la folle du logis, donc l'imagination fertile, et qui fait qu'on se met à psychoter. Donc, ça peut parfois aussi être une cause. Ou alors d'autres aussi ont quitté l'école, ça fait 30 ans, et donc il y a quand même 4 instructions par jour, mais au bout de la 3e, on a déjà une tête comme ça, alors la 4e, pff. Donc en ce moment-là, après, si vous êtes trop fatigué, n'hésitez pas à vous reposer, à sauter une instruction. Alors volontairement, on n'a pas mis le thème des instructions, parce qu'il y avait une année où c'était vraiment à la carte. Donc on voyait ce « Oh, le péché, moi, c'est pas tellement mon truc. Ah, le ciel, ah ouais, ouais, ça c'est super. » Donc pour éviter ça, si vous voulez, bon, on ne sait pas de quoi on va parler tout à l'heure. Donc comme ça, ça permettra de... J'espère que vous ferez le bon choix. Ou que vous ne choisirez pas tout. Enfin. Ensuite, après, il y a parfois des crises de scrupules. Des âmes qui sont saintes, qui sont pieuses, enfin qui sont en tout cas de bonnes âmes chrétiennes, parce que justement elles ont une âme délicate, une âme qui veut être agréable à Dieu, eh bien le démon les tourmente, ou le bon Dieu permet en tout cas qu'elles aient ces crises de scrupules. Et donc c'est là spécialement qu'il faut s'ouvrir à un prêtre. Donc en général on dit toujours que les phrases qui commencent par « qui c'est si, peut-être que, si jamais », c'est pas de Dieu, vous voyez. Quand le bon Dieu il est clair, c'est clair. Quand c'est trouble, c'est pas de Dieu. Si c'est plus c'est trouble, et donc plus je cherche et moins je trouve, en général c'est pas du bon Dieu, vous voyez. Parce que le bon Dieu il vous aime, donc lui il est là pour vous éclairer. Donc si plus vous cherchez, moins vous trouvez, c'est que c'est l'autre qui rôde autour de vous. Donc en ce moment-là, il ne faut pas jouer avec lui, donc il faut parfois le fait de s'ouvrir tout simplement, ça suffit, le démon a horreur d'être reconnu, et après c'est reparti. Voilà. Et puis ensuite, il y a quand même aussi une cause spirituelle, possible donc aux périodes de sécheresse. Donc le bon Dieu, voyant votre générosité, eh bien se cache. Donc quand le bon Dieu se cache, c'est pas forcément parce qu'il ne nous aime pas, c'est parce qu'il il désire qu'on s'attache à lui d'une façon plus profonde. Donc sachez, regardez dans la Sainte Écriture, hein, nous avons l'exemple de la Cananéenne, nous avons l'exemple de Sainte Marie-Madeleine, nous avons de beaux exemples de femmes généreuses. Qui n'ont pas notre Seigneur n'a pas répondu à leur attente tout de suite. Mais ensuite, parce qu'elles ont été persévérantes, elles ont obtenu ce qu'elles désiraient. Donc la Cananéenne, notre Seigneur lui a dit « Oh, ta foi est grande, qu'il soit fait selon ce que tu dis. » Et puis Sainte Marie-Madeleine a eu la grâce d'être la première à voir notre Seigneur ressuscité, parce qu'elle a eu cette patience. Donc ne soyez pas impatiente, ça c'est vrai aussi, c'est un peu la mentalité fast-food d'aujourd'hui. On veut obtenir tout de suite, et dès qu'on l'obtient pas, bon, on va voir ailleurs. Donc, sachez être persévérante. Dieu nous donne ses grâces à la mesure de notre générosité, de notre persévérance. Et puis, on voit que si notre Seigneur a été tenté, il a aussi été visité par des anges. Donc, en voyant sa fidélité, ensuite, les anges sont venus le servir. Alors le diable laissa, tandis que s'approchèrent des anges qui se mirent à le servir. Alors en conclusion, je dirais 3 mots d'ordre pour cette retraite. Premier mot d'ordre, intrare totus, donc entrer tout entière, donc ne pas se donner à moitié, mais sans contention d'esprit, sans crispation, sans tension, donc ne pas hésiter à vous promener. Manere solus, demeurer seul avec Dieu, donc il y a une certaine ascèse, là c'est vrai, à cette solitude, mais qui est, il faut savoir pourquoi vous voulez rester seul. Ce n'est pas par égoïsme, mais c'est pour être tout à Dieu. Et exire alius, ça c'est le fruit de la retraite, sortir autrement. Donc, si vous êtes fidèle, normalement, on le voit bien, hein, chaque année, à la fin d'une retraite, on voit les retraitantes qui sont paisibles, apaisées en Dieu, joyeuses. Alors c'est pas joyeuse, ouais super, après 5 jours de prison on retrouve le monde, ouais, c'est pas ça, mais on vous voit au contraire, apaisé en Dieu quoi. Et c'est vraiment le but d'une retraite. Alors le thème de la retraite, ces retraites, on les appelle retraites de vie chrétienne. Ça veut dire que c'est des retraites où le thème reste assez général au départ. Maintenant, j'ai voulu mettre l'accent sur un aspect particulier. Donc quand je dis que c'est des considérations générales, donc on vous parlera de Dieu, on parlera de notre Seigneur Jésus-Christ, on vous parlera des moyens d'arriver à Dieu, donc des vertus, on vous parlera des obstacles aussi, donc de la du péché, on vous parlera de parmi les autres moyens pour arriver à Dieu, on parlera de la prière, on parlera de la grâce, des sacrements, on parlera de la Sainte Vierge. Et en dehors de ces instructions, j'ai voulu mettre l'accent cette année spécialement sur la femme catholique. Je voulais déjà le faire depuis plusieurs années. Je l'avais annoncé, je ne l'avais pas fait. Alors cette fois-ci, je n'ai pas annoncé, mais je le fais. Donc, parce que j'ai eu un petit peu de temps pour préparer quelques instructions là-dessus. Donc, comme je sais que c'est bien sûr des thèmes qui vous sont chers, puisque ça vous touche vraiment de près, j'ai voulu aborder ce thème spécialement cette année. Donc, en dehors de demain, où je parlerai sur Dieu pour la première instruction, à partir de mardi, donc pour les quatre instructions que je ferai moi-même, donc je mettrai l'accent sur un point, sachant que les autres donc, parleront des aspects plus généraux. Donc moi-même, je ferai une instruction, ce sera sur la femme dans ses rapports intimes avec Dieu, ce sera mardi. Mercredi, ce sera la jeune fille française. Ensuite, alors je suis désolé, parce que c'est vrai qu'il y a Mademoiselle Périgueur, qui est la doyenne, qui a 91 ans, qui ne se sentira peut-être pas directement concernée. Mais l'univers est assez vaste, donc c'est comme ça. Ensuite, j'en ferai une sur l'épouse et la mère. Donc ça, ce sera jeudi. Et puis vendredi, ce sera la femme catholique dans le monde. Donc c'est l'ouverture après pour vous permettre de rayonner autour de vous. Voilà. Alors, dernier conseil que je vous donnerai, faites la retraite avec la Sainte Vierge. Ce n'est pas un mot que je dis comme ça parce que il faut bien terminer par la Sainte Vierge, mais c'est parce que c'est tout à fait vrai qu'elle vous aidera vraiment. La Sainte Vierge est notre mère, elle est à la fois contemplative, elle est en même temps aussi une femme active, comme elle est votre mère, elle est notre mère à tous, elle est capable de vous comprendre et elle vous aidera. Donc si vous avez des moments spécialement plus difficiles, n'hésitez pas à sortir votre chapelet, à la prier plus intimement, ou aller à la chapelle, l'invoquer. Elle vous aidera certainement à passer cette retraite dans la paix. Donc on voit bien toujours la Sainte Vierge qui écrase de son pied la tête du serpent. On voit qu'il y a une opposition radicale entre la Sainte Vierge et le démon. C'est elle qui a vaincu le démon. Donc si le démon rôde autour de vous, profitez-en, allez vous blottir dans le sein de Notre-Dame et sûr qu'elle vous aidera à faire une bonne retraite. Donc bonne retraite à toutes. Je vous laisse maintenant vous rendre à la chapelle. Et là, une petite chose, bon, c'est vraiment un détail. Hein. Je demande aux femmes d'avoir la tête couverte dans la chapelle, puisque nous sommes dans un séminaire. Alors, en général, pas de problème. Alors, comme j'aime à le dire, puisque c'est un détail, c'est pas la peine peut-être d'en faire un plat. Maintenant, si certaines avaient un obstacle vraiment, c'est un obstacle insurmontable, elles peuvent venir me voir dans mon bureau, on arrangera ça seul à seul. Non, mais ça se passera très bien. Voilà, donc bonne retraite et on se rend à la chapelle pour une courte prière du soir. Et en se regardant, eh bien, ce regard sur nous est un regard qui souvent trouble. Donc il faut apprendre à se voir, mais en Dieu. À se voir en Dieu, ça veut dire à se voir donc avec un regard juste, qui est le regard que Dieu porte sur nous. Et donc le regard que Dieu porte sur nous est toujours un regard d'amour et de miséricorde. Et on ne doit jamais par conséquent séparer la vue de notre misère de la miséricorde de Dieu. Donc si je ne regarde que la boue, la misère dans laquelle je me trouve, sans regarder plus haut, en ce moment-là, ce regard-là est un regard qui va me troubler. Mais par contre, si j'apprends à me voir en Dieu, en ce moment-là, ce regard va m'apaiser, même si ce regard aussi va produire en moi des sentiments, par exemple, de compunction, de regret. Un exemple que vous allez qui va vous faire comprendre ce que je veux vous dire là, c'est l'exemple de Saint-Pierre, vous voyez, qui malheureusement a renié son maître le soir du Jeudi Saint. Donc c'était une faute grave, bien sûr, lui qui avait été si proche de notre Seigneur, si intime de notre Seigneur, de le renier au moment où notre Seigneur avait en quelque sorte presque humainement le plus besoin de lui. Eh bien, après avoir commis son péché, Saint Luc nous rapporte que notre Seigneur, sortant de chez Caïphe, se retourna et regarda Pierre. Il le regarda. Et donc Saint Pierre, en ce moment-là, a croisé le regard de notre Seigneur. Et c'est à travers ce regard de notre Seigneur qu'il a compris, en fait, sa propre misère, qu'il a compris son péché. Donc il ne s'est pas regardé lui-même, il a regardé notre Seigneur. Et parce que notre Seigneur, le premier, le regardait. Et donc à travers ce regard, il a compris la gravité de son péché, mais il a compris en même temps aussi la miséricorde du bon Dieu. Et donc c'est ce qui fait que, en se revenant sur lui, il a pleuré amèrement, mais il est resté paisible. Donc le but d'une retraite, comme je vous le disais hier, c'est de vous reposer en Dieu. Et pour arriver à vous reposer en Dieu, il faut vous approcher de lui. Et pour vous approcher de lui, donc il faut apprendre petit à petit à découvrir qui il est. Alors en fait, il y a deux approches possibles de Dieu. On peut en fait connaître Dieu en partie par la raison et en partie par la foi. Et donc la connaissance de Dieu que je vais vous donner ce matin, c'est la connaissance de Dieu essentiellement par la raison. Et mon but ici est double. Tout d'abord, cette connaissance que l'on peut avoir de Dieu par la raison donne une assise à notre foi. Et si déjà par la raison, par mon intelligence, je peux arriver à une certaine approche de Dieu, arriver d'ailleurs à avoir une certitude que Dieu existe, et si j'arrive à connaître certains attributs de Dieu, ça va me donner une assise à ma foi. Par conséquent, eh bien, que la chance, entre guillemets, me sourit, ou que dans la vie, j'ai beaucoup d'épreuves, eh bien, ma raison me dit que Dieu existe. Et donc, je n'ai pas à mettre en doute l'existence de Dieu, parce qu'il y a des épreuves qui me touchent, ou qui touchent le monde, ou qui touchent mon voisin ou ma voisine. Donc, l'intérêt de cette approche de la connaissance de Dieu par la raison, c'est de donner une assise à ma foi. Ça, c'est le premier intérêt. Et ensuite, deuxième intérêt de cette connaissance de Dieu par la raison, c'est que ça me donne, comme vous allez le voir, une certaine idée de la grandeur de Dieu. Et ça, c'est aussi très important. Bien sûr que c'est important de voir le petit enfant Jésus dans la crèche, c'est très doux, c'est très consolant, mais ça donne une idée incomplète de Dieu. C'est vrai que Dieu s'est fait petit enfant pour nous, et donc ça c'est un autre aspect de Dieu qui est très important d'avoir, et on en parlera cet après-midi en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut essayer d'unir en fait deux aspects, et c'est ce qui fait toute la beauté de notre religion, de la vraie religion, donc qui est la religion catholique, c'est que ce Dieu qui est si proche de nous est en même temps si grand. Et aujourd'hui, on a perdu, me semble-t-il, ce sens de la grandeur de Dieu. Et donc, un des moyens d'arriver à avoir une idée juste de cette grandeur de Dieu, c'est d'étudier ce qu'on peut connaître de lui déjà par la raison, comme vous allez le voir. Donc, quelle connaissance l'homme peut-il avoir de Dieu depuis le péché originel ? Donc, tout d'abord, la nature humaine est ainsi faite que nous avons en premier lieu accès au monde visible. L'enfant, le bébé, quand il ouvre les yeux, ben, il commence à voir le monde qui est autour de lui. Bon. Donc on n'a pas un accès au départ direct au monde invisible. On voit d'abord ce qui se passe autour de nous. Donc on peut voir, on peut entendre, on peut sentir. Donc par les différents sens, on a accès au monde visible. Et ensuite, par notre intelligence, eh bien, on peut avoir accès au monde invisible. Mais toujours par le sensible. L'homme, voyez, n'est pas capable d'arriver à l'invisible sans passer par le visible. Notre nature est faite comme ça. Les anges, eux, reçoivent leurs informations de Dieu directement. Ils ont des idées infuses. Donc les anges sont éclairés directement par Dieu. Donc ils reçoivent leurs informations d'en haut. Eh bien l'homme, lui, reçoit toutes ces informations d'en bas. Et c'est si vrai que si vous prenez un enfant, un bébé, si vous voulez, qui serait sourd-muet, donc dont les sens ne fonctionneraient pas, vous voyez, eh bien, vous ne pourrez jamais en faire un homme. Parce que l'intelligence ne peut se développer qu'à partir des sens. C'est même un adage philosophique qui dit que rien, rien ne passe par l'intelligence qui ne soit au préalable passé par les sens. Donc le monde invisible, pour nous, n'est accessible que par le sensible. Alors ce monde invisible, certains le reconnaissent et malheureusement d'autres le nient. Ceux qui le reconnaissent, sont ceux qui sont capables justement de réfléchir un petit peu au pourquoi, et en remontant au pourquoi ils arrivent au Créateur. Et les autres, en général, ils s'arrêtent à la question du comment, comment que ça marche, et ils ne vont pas plus loin. Donc nous pouvons remarquer en discutant avec les gens qui nous entourent que certaines personnes, orientent toute leur vie vers ce monde visible. Donc ils se désintéressent du monde invisible. Soit ils le nient carrément, ou soit ils disent « moi, c'est pas ma préoccupation première ». Donc chacun sa vie, donc moi, ma vie, elle est centrée sur cette vie d'ici-bas. Bon. Et à l'inverse, nous rencontrons d'autres personnes qui, peut-être, parfois, dans leur enfance, n'ont pas eu la grâce d'être élevées dans un milieu catholique. Mais ensuite, au cours de leur vie, leur réflexion les a amenés à conclure à l'existence de Dieu. Ils se sont dit, c'est pas possible quand même que ce monde se soit fait comme ça tout seul, il y a bien quelqu'un qui était à l'origine. Et en même temps, en ressentant en nous-mêmes cette une question de raison d'être, se dire, la vie serait stupide si elle s'arrêtait à la mort. On sent chacun d'entre nous un désir d'infini, une soif d'absolu. S'il y a cette soif en nous, c'est qu'elle doit être étanchée d'une manière ou d'une autre. Et voyant qu'elle ne peut pas l'être parfaitement ici-bas, c'est qu'elle doit l'être de l'autre côté. Donc voilà quelques réflexions que se font des personnes pour arriver à admettre l'existence de Dieu. Alors, cette connaissance de Dieu par la raison, dont je vais maintenant approfondir la notion, après vous avoir donné simplement un petit aperçu, cette connaissance de Dieu par la raison, ça a été le chemin utilisé par des philosophes comme Platon et Aristote. Donc des philosophes païens sont arrivés à la conclusion que Dieu existe, en utilisant uniquement leur raison. Et saint Thomas d'Aquin, alors, a repris lui-même cette même approche. Et comme vous allez le voir, dans les voies de saint Thomas, je ne vais pas utiliser les cinq voies, je m'arrêterai surtout à l'une ou deux principalement, pour vous faire comprendre, vous faire atteindre un petit peu qui est Dieu. Donc, pour arriver à cette approche, saint Thomas s'est appuyé au départ sur le monde visible, parce que, comme je vous ai dit, le monde invisible ne peut être connu que par le monde visible. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que le monde qui nous entoure nous cache Dieu, parce que nous pouvons d'ailleurs nous arrêter à ce monde visible. Donc, d'une certaine manière, le monde nous cache Dieu. Et d'une autre manière, ce même monde nous révèle Dieu. Et je vais vous montrer de quelle manière il nous le révèle. On peut dire que le Créateur a laissé des vestiges de ce qu'il est dans la création. Et il l'a fait dans le but pour que nous puissions le connaître et l'aimer. Alors maintenant, nous allons voir les attributs de Dieu qui sont accessibles par la raison. C'est intéressant ici notamment de regarder, de prendre l'épître aux Romains et de voir ce que saint Paul a pu dire aux Romains. Saint Paul, voyez, porte un jugement sévère sur les païens qui, à son époque, niaient l'existence de Dieu. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il pourrait dire. Et le motif qu'il en donne, c'est le suivant. Donc, c'est dans l'Épître aux Romains, c'est le chapitre 1er, versets 20 et 21. « Depuis la création du monde, écrit donc saint Paul aux Romains, les attributs invisibles de Dieu... » Il prend deux exemples. Son éternelle puissance et sa divinité deviennent par ses œuvres visibles à l'intelligence. Aussi sont-ils inexcusables parce que connaissant Dieu, ils ont refusé de le glorifier. Donc pour saint Paul, il ne fait aucun doute que par notre raison, nous pouvons arriver à reconnaître, et nous devons même arriver à reconnaître la puissance de Dieu. Parce que cette puissance de Dieu est présente dans la création. Alors, de quelle manière on peut dire que la puissance de Dieu est présente dans la création? Eh bien, tout simplement, pour créer un monde aussi complexe et aussi harmonieux, aussi varié et aussi équilibré, un monde qui est si divers et en même temps qui est si uni, en un mot, pour créer un monde aussi parfait que le monde que nous connaissons, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, il faut être tout puissant. Donc la puissance de Dieu va se manifester par, tout simplement, les créatures que nous voyons, qui sont des créatures admirables dans le sens où elles ont toutes été créées pour un but, et on voit qu'elles atteignent le but que Dieu leur a fixé. Par exemple, le soleil a été créé pour produire lumière et chaleur, et le soleil produit lumière et chaleur. Les astres se meuvent selon des lois bien précises, et si jamais elles n'observaient pas ces lois, eh bien ce serait catastrophique pour nous, bien sûr, on pourrait disparaître du jour au lendemain. Les arbres produisent leurs fruits, les abeilles fabriquent leur miel, et ainsi de suite. Cet ordre que nous pouvons voir donc dans ces créatures vont se retrouver, cet ordre va se retrouver dans l'ordre humain. Par exemple, prenez simplement l'œil. Un œil, c'est un appareil photographique merveilleux, prodigieux. Comme disait Lucien Quesneau de l'Académie des sciences, il n'est pas téméraire de croire que l'œil est fait pour voir. Donc c'est ce qu'on appelle ici, vous voyez, le principe de finalité. Ça veut dire que chaque organe est créé pour une fin propre. Or, donc, s'il y a un rapport de finalité, il y a un rapport de moyen à fin. Donc, qui dit ordre, dit principe d'ordre. S'il y a un ordre, c'est qu'il y a un principe d'ordre. Ranger, c'est que quelqu'un l'a rangé. Moi, j'y peux rien. Qui dit ordre, dit principe d'ordre. C'est ce que disait aussi Palais. Ce dessin doit avoir été conçu par quelqu'un, ce quelqu'un doit avoir été une personne, cette personne est Dieu. En effet, la complexité de toutes les lois de la nature, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, suppose une intelligence infinie. Lorsque, par exemple, un homme découvre une loi, quelle qu'elle soit, on va le féliciter si cette loi va pouvoir nous rendre des services dans la vie de tous les jours. On va le prendre pour un génie. Mais l'homme ne fait que découvrir une loi, il ne crée pas la loi. La loi a été créée par Dieu. Donc il ne fait que découvrir ce que le Créateur a mis dans la nature. Donc le fait déjà de découvrir une loi, on se dit « Oh, qu'est-ce qu'il est intelligent pour avoir découvert cette loi !» Mais il n'a rien créé du tout. De même, lorsqu'un homme découvre un remède pour guérir une maladie, là aussi, on va le porter au nu, si une personne, imaginez, celui qui serait capable de guérir certains cancers, eh bien, on va le féliciter, bien sûr, mais ce remède n'est rien par rapport à la santé que Dieu communique à tant d'autres créatures. Et par ailleurs, notons que si les hommes, par leur intelligence, font des choses merveilleuses, c'est vrai, il y a des médecins qui ont quand même des talents extraordinaires, c'est vrai. Mais d'où viennent ces talents de ce médecin? Ils viennent aussi de Dieu. Donc même l'intelligence humaine, eh bien, c'est pas moi qui me suis donné mon intelligence, je l'ai reçue. Donc l'intelligence que j'ai me vient de Dieu. Donc l'homme ne peut qu'utiliser son intelligence, mais celle-ci, c'est pas lui qui l'a créée, qui l'a fabriquée lui-même, il l'a reçue. Donc Dieu est infiniment plus grand que tous les génies qui ont existé et qui existeront. Et là, je ne fais pas appel à la foi, je fais appel à la raison, uniquement à la réflexion. Donc c'est ainsi qu'on peut dire que la contemplation de l'univers révèle la toute-puissance de Dieu. Avant de rentrer au séminaire, j'enseignais à Chantilly, enfin près de Chantilly, et c'est amusant parce que deux professeurs de la même école, donc je logeais sur place dans l'école, et donc deux des professeurs donc aimaient bien parler religion avec moi. Et imaginez, l'un s'appelait Monsieur Bishop, et l'autre s'appelait Monsieur Dieu. Et Monsieur Dieu me disait qu'il avait une maison en Normandie, et donc pendant l'été, il passait ses vacances en Normandie. Et là, il allait au bord de la mer, et en contemplant certains couchers de soleil, spécialement, et puis ensuite, après en restant un petit peu dans la nuit, il était il, comme pris de vertige, qu'il me disait, en réfléchissant à celui qui est à l'origine de cet univers. Donc en voyant l'immensité de la mer, en contemplant les étoiles, en voyant les merveilles de la nature, il se disait, mais c'est pas possible, ça n'a pas pu se faire tout seul ça. Et donc c'est ainsi qu'il arrivait, par sa propre réflexion, à ce mystère qui est à l'origine de ce monde que nous côtoyons. Alors bien sûr, après j'ai cherché à aller plus loin pour essayer de l'amener plus profondément, mais c'est intéressant de voir que c'est uniquement par sa réflexion qu'il arrivait à Dieu. Donc l'observation de l'univers m'amène à la conclusion que Dieu est tout-puissant. En effet, déjà chaque créature prise en particulier est un véritable chef-d'œuvre qui me manifeste la puissance de Dieu. Alors si maintenant vous regardez l'ensemble des créatures, et non plus une seule créature, eh bien on voit encore bien mieux cette toute-puissance. Et donc si je ne reconnais pas cette toute-puissance, je suis inexcusable. Et c'est pourquoi saint Paul dit « Depuis la création du monde, les attributs invisibles de Dieu, son éternelle puissance et sa divinité deviennent par ses œuvres visibles à l'intelligence. » Alors c'est vrai qu'elles le sont moins pour l'homme moderne. Spécialement, vous voyez, quand vous vivez dans une grande ville, si vous vivez à Paris, où vous ne vivez que dans un endroit où il n'y a plus que les traces de l'homme, et vous ne voyez plus la nature, c'est plus difficile, bien sûr, d'arriver à la connaissance de Dieu dans ces cas-là. Parce que dans les grandes villes, on n'a plus que les traces de l'homme, et il y a beaucoup moins les traces de Dieu. Mais ceux qui vivent plus proche de la nature s'en rendent mieux compte. Deuxième attribut divin qui va vous toucher, et que je signale, qui est visible aussi dans la nature, c'est la bonté de Dieu. Vous observez des êtres qui sont plus ou moins bons. Il y a des gens qui sont plus ou moins bons, des animaux qui sont plus ou moins bons. Bon. Vous observez des créatures qui sont plus ou moins bonnes. Au moment de la création, toutes les créatures étaient bonnes. En effet, on peut lire cela dans le livre de la Genèse, que lorsque Dieu crée, Dieu vit que cela était bon. Tout ce que Dieu fait, lui-même, est bon. Le mal, on verra bon, après en étudiant cet après-midi le péché, le mal est venu par le péché originel. Mais au départ, donc, ce que Dieu a fait est bon. Entre parenthèses d'ailleurs, pour la nature, ça, je ne vais pas développer cet aspect-là. Dans la nature, donc, la nature me révèle en grande partie qui est Dieu, mais la nature me révèle aussi le péché. Ça, c'est un autre aspect. Parmi mes fidèles, j'ai plusieurs paysans, et des paysans qui réfléchissent, qui aiment à méditer, et ils me disent qu'ils voient bien eux-mêmes, dans la nature, à la fois l'action de Dieu, en étant émerveillés par la façon dont les graines se développent pour donner des plantes, et ainsi de suite, et en même temps aussi, ils voient bien aussi la marque bien du péché. Donc, en raison du péché originel, la nature elle-même participe à l'état de l'homme, et donc c'est la raison pour laquelle il y a non seulement des cataclysmes, mais il y a aussi même certaines maladies, les épines et les chardons dont il est fait mention dans le livre de la Genèse, juste après le péché originel, c'est une conséquence du péché originel. Donc les désordres, si vous voulez, qui sont présents dans la nature sont des conséquences eux-mêmes du péché. Ils ne sont pas attribuables directement à Dieu, mais au péché. Donc Dieu vit que cela était bon. Malheureusement, depuis le péché originel, nous avons une attirance vers le mal. Mais il reste en nous, malgré tout, un fond de bonté. Et cela est vrai, non seulement donc chez les catholiques, si vous voulez, chez ceux qui ont eu la grâce du baptême, qui ont la grâce sanctifiante, mais même chez tout homme, qui n'est pas complètement dénaturé. Et c'est ainsi que nous rencontrons, vous avez dû rencontrer dans votre vie, des personnes qui sont dotées d'une certaine bonté naturelle. Il y a des gens qu'on sent qui sont bons naturellement. Il y a des natures qui sont plus douces, plus aimables, et d'autres qui sont tempérament plus revêches dès le départ. Et cette bonté se manifeste notamment dans les rapports que l'homme entretient avec ceux auxquels il est uni par les liens du sang et ceux auxquels il est uni par l'amitié. C'est sûr que plus spontanément, disons, on a tendance à à faire plus de bien aux gens qui nous sont plus unis, soit par les liens du sang, soit par les liens de l'amitié. Et par là, on peut distinguer donc deux origines différentes dans l'amour humain. Notre amour, vous voyez, l'amour que l'on peut avoir pour les personnes que nous côtoyons, a deux sources possibles. Soit il y a un amour de choix, on choisit ses amis, ou soit un amour que j'appellerais amour d'instinct ou amour naturel. C'est un amour qui est ancré dans la nature. On choisit ses amis, mais on ne choisit pas ses enfants. Or, parmi les amours les plus profonds qui existent ici-bas, il y a notamment l'amour naturel, c'est-à-dire un amour qui est ancré dans notre nature, et spécialement l'amour qui unit les membres d'une même famille. Il y a un amour naturel des parents et un amour naturel des enfants. Et parmi toutes ces formes d'amour, on peut admirer notamment l'amour maternel. À un titre particulier, on peut admirer l'amour maternel. Toute mère qui n'est pas dénaturée a un profond amour pour les enfants qui sont la chair de sa chair. Alors ici, je vous pose la question, qui a mis l'amour dans le cœur d'une mère ? On n'a pas appris à une maman qu'elle devait aimer son enfant. Et c'est naturel. D'où vient cet amour maternel ? Puisque cet amour est naturel, il existe aussi bien, normalement, chez les païens que chez les chrétiens. Même si après, il y a encore malheureusement des gens qui ont une nature tellement corrompue qu'ils en arrivent à des choses abominables. Mais puisque cet amour est naturel, puisqu'il est ancré dans la nature, il ne peut venir que de l'auteur de la nature. Et qui est l'auteur de la nature ? Ben, c'est Dieu. Donc il ne peut venir que de Dieu. C'est donc Dieu qui a mis cet amour dans le cœur des mères. La mère va pouvoir développer cet amour qui est présent en elle, mais elle ne pourra que développer cet amour. De la même manière que l'intelligence que vous avez, vous pouvez la développer. Il y a des gens qui sont plus ou moins intelligents. Mais l'intelligence que vous avez, vous pouvez la développer. Mais l'intelligence, elle ne vient pas de vous. Elle vient de celui qui vous a créé. Eh bien, l'amour, c'est la même chose. Votre amour ne vient pas de vous. L'amour vient de celui qui vous l'a mis. Et ça, c'est vrai déjà au niveau naturel. Et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc si Dieu a été capable de mettre l'amour dans le cœur d'une mère, c'est qu'il est amour. Le lundi de Pentecôte, j'ai fait le pèlerinage, la dernière partie du pèlerinage avec les séminaristes comme d'habitude, et juste après avoir quitté les pèlerins, une voiture de 5 jeunes, donc 5 arabes, s'arrête, et me disent « Monsieur, on peut vous parler ?» Je dis « Ben, je vous en prie. » Alors, donc, qui est Dieu ? Alors, bon, qui est Dieu pour vous, donc ? Alors, j'ai dit « Bon, j'ai commencé à parler de Dieu, donc de notre Seigneur, tout cela. » Et alors, en ce moment-là, après, il dit « pour toi, Jésus-Christ est Dieu. » Non, pour vous, quand même, il dit « Pour vous. » Pour vous, Jésus-Christ est Dieu, c'est pas possible, chose pareille. Dieu a eu un fils, c'est pas possible. Donc, bon, alors je dis, ben, si, tout à fait, bon. Et alors, en ce moment-là, après, ce que j'ai compris à travers eux, c'est qu'ils voyaient à travers Dieu, si vous voulez, l'être tout-puissant, un être infiniment grand, mais par contre, il manquait une dimension, c'est le Dieu-amour. Pour eux, pour les musulmans, Dieu n'est pas un Dieu-amour. Islam veut dire soumis, donc on se met... Donc à plat ventre, donc devant ce Dieu qui est infiniment grand, mais il manque la dimension de l'amour. Ils n'ont pas réfléchi à cela. J'aurais pu leur dire, mais qui a mis l'amour dans le cœur d'une mère ? Bon, après aussi, c'était amusant, parce que c'est une petite récréation. Dans la discussion qu'on a pu avoir, à un moment donné, il y en a un qui me dit, « Ah, il y a un chrétien qui est devenu musulman, et il y a quelqu'un qui a dit que s'il y en avait 10 comme lui, tous les États-Unis, eh bien, ils deviendraient musulmans. » Alors, je dis, ah, mais nous, dans notre religion, on a encore bien mieux. Hein. Il y a le curé d'Ars, il y a le démon qui lui a dit, si j'en avais 3 comme toi, tout mon royaume serait détruit. Bon. Enfin bon, c'était un petit peu une joute oratoire, mais... Après, on s'est quitté, quand même. Donc, qui a mis l'amour dans le cœur d'une mère ? Et c'est intéressant de voir que le prophète Isaïe, au chapitre 49, versets 14 à 16, le prophète Isaïe dit ceci. Donc c'est Dieu qui parle en fait, à travers lui. Une femme peut-elle oublier son enfant et n'avoir pas pitié du fils de ses entrailles ? Mais quand bien même elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur, voici, je t'ai gravé sur mes mains. C'est très intéressant. La Sainte Écriture, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Donc Dieu lui-même, pour nous faire comprendre combien il nous aime, il a voulu prendre lui-même l'exemple de l'amour maternel, en disant, mais regardez, toute mère aime son enfant normalement. Eh bien, quand bien même une mère oublierait son enfant, eh bien moi, je ne vous oublierai pas, Seigneur Tout-Puissant. Donc on peut découvrir l'amour de Dieu en regardant l'amour d'une mère pour son enfant. On peut aussi découvrir encore l'amour de Dieu en regardant la bonté d'une âme très sainte. C'est ce qu'a fait par exemple Saint Vincent de Paul. C'est intéressant de voir que Saint Vincent de Paul a connu Saint François de Sales. Donc deux saints qui se connaissent, c'est pas tous les jours que ça se produit. Et donc en voyant la sainteté de Saint François de Sales, Saint Vincent de Paul a eu cette réflexion. Que vous êtes bon, ô mon Dieu, que vous êtes bon, puisqu'il y a déjà tant de bonté dans une simple créature. Donc vous voyez, c'est exactement ce que je voudrais vous montrer ici, qu'a fait Saint Vincent de Paul. Voyant la bonté dans le cœur de Saint François de Sales, il se dit, cette bonté qui est présente dans ce saint, c'est une bonté reçue, c'est une bonté qui vient de Dieu. Si Dieu a été capable de mettre une telle bonté dans le cœur de Saint François de Sales, c'est que lui, il est infiniment bon. Bonté créée est une bonté participée, elle ne peut venir que de Dieu. Et si elle vient de Dieu, c'est que Dieu la possède parfaitement. Donc vous voyez donc qu'on peut arriver ici-bas à découvrir les perfections de Dieu, que ce soit la puissance de Dieu ou la bonté de Dieu, en contemplant l'œuvre de la création. Et ici, cette réflexion, si vous voulez, cette contemplation, cette découverte, chacun d'entre nous peut la faire. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait beaucoup d'études, il n'est pas nécessaire d'avoir fait Polytechnique ou Sciences Po pour être capable de réfléchir à ce que je vous dis là. Et on voit aussi ce que les anciens avaient ce regard contemplatif. Donc les religieux, les prêtres, les religieuses donc disent l'office divin, ou le bréviaire pour les prêtres. Et dans cet office divin, il est essentiellement composé de psaumes. Eh bien, il y a énormément de psaumes où il est fait allusion à ce lien qu'il y a entre la créature et le créateur. Pas plus tard que ce matin, à l'office de prime, que nous avons récité donc avec les séminaristes, nous avons lu ce passage. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament publie l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu. En voyant le ciel étoilé, eh bien, je découvre par là la gloire de Dieu. Je découvre la grandeur de Dieu. Ce ne sont point langage ni discours dont on n'entende point les voix. Leur bruit s'est répandu sur toute la terre et leurs accents jusqu'aux extrémités du monde. Quel que soit l'endroit où l'on habite, il suffit de lever les yeux vers le ciel pour se rendre compte ainsi de la grandeur de Dieu. Donc pour le roi David, il ne faisait aucun doute que les cieux sont une manifestation directe des perfections de Dieu. Et c'est pourquoi il raconte la gloire de Dieu. Donc de même qu'une œuvre d'art me révèle les qualités d'un artiste, quand je vois une œuvre d'art qui est vraiment très belle, je dis « Oh, qui est-ce qui a fait ça ?» Tout de suite, c'est spontané. L'œuvre d'art me révèle les qualités d'un artiste. Ou au contraire, me révèle aussi des fois l'artiste. « Ah, qui est-ce qui a fait ça ? C'est vraiment nul, hein, gars. » Donc, vous voyez bien, une œuvre d'art vous révèle les qualités ou les faiblesses, les limites d'un artiste. Eh bien, le monde, qui est une œuvre d'art magnifique, nous révèle les qualités de l'artiste divin. Alors maintenant, après vous avoir montré comment on peut déjà arriver à une certaine connaissance de Dieu par la raison, je voudrais vous montrer les limites de notre connaissance par la raison. S'il est vrai que les créatures nous révèlent certaines perfections de Dieu, malgré tout, ce que sont les perfections en Dieu, je ne le vois pas. Je ne peux pas le percevoir, je ne peux même pas le saisir intellectuellement parfaitement. Pourquoi cela ? Eh bien, toute perfection ici-bas est limitée. Par exemple, Saint François de Sales, il avait certes une grande sainteté, mais sa sainteté était limitée. Telle mère de famille qui aime son enfant d'un amour héroïque, et sans doute que son amour est vraiment héroïque, mais il est quand même limité, parce que cette femme est limitée. Tandis que Dieu, lui, il est infini, il est illimité. Donc les qualités qui sont présentes en lui sont infinies, sont illimitées. Et alors quand on passe du fini à l'infini, on passe vraiment d'un monde à l'autre. Parce que infini, vous voyez, c'est une définition négative. Infini, c'est ce qui n'est pas fini, bon. Mais on ne peut pas définir positivement ce que c'est que l'infini. Infini, c'est quelque chose qui n'est pas limité, mais là, on donne une définition négative. Alors qu'en Dieu, eh bien, cette bonté, elle est positive et pas négative. Donc, ce qu'est une bonté infinie, on peut imaginer simplement qu'elle est infiniment, bien sûr, plus profonde que celle que je vois dans la plus simple des créatures, mais je ne peux pas arriver à me représenter vraiment ou même à goûter intérieurement parfaitement ce qu'est cette bonté. La beauté de Dieu qui se manifeste dans la création est toujours limitée, car toutes les créatures sont limitées, tandis qu'en Dieu, elle est absolument pure, sans mélange. La bonté des créatures, la bonté d'un saint, est malgré tout limitée, tandis que la bonté de Dieu est infinie. Par conséquent, en portant les perfections que l'on voit dans la nature à l'infini, on ne nie pas la possibilité de connaître d'une manière imparfaite les perfections de Dieu, mais on est obligé de reconnaître les limites de cette connaissance. Parce que le mode des perfections de Dieu nous est inaccessible, est insaisissable, même aux hommes les plus puissants, les plus intelligents. Et c'est pourquoi on aboutit au mystère. Et c'est normal, parce que Dieu est infiniment au-dessus de nous. Donc chaque fois qu'on parle de Dieu, on aboutit nécessairement au mystère. Et c'est ce qui explique que certains mystiques ont développé ce qu'on a appelé la théologie négative. La théologie négative, c'est le fait que les qualités positives de Dieu, on ne peut les définir nous-mêmes que négativement. Elles sont positives en Dieu, mais moi je suis obligé de les définir négativement parce que je n'ai pas un accès direct à ce que sont ses qualités en Dieu. Donc je peux dire par exemple, Dieu est plus grand que l'immensité de l'océan. Dieu est plus beau que toutes les beautés que je trouve dans la nature. Mais dès que je me trouve dans l'infini, je me trouve dans un ordre dont je n'ai pas l'appréhension parfaite ici-bas. Et c'est intéressant de voir que ceux qui ont été les plus proches de Dieu ont précisément saisi ce que je voudrais vous faire comprendre ici. Par exemple, saint Paul. Saint Paul a eu la grâce, dit-il lui-même, d'être élevé au troisième ciel. Donc c'est une grâce particulière. Plusieurs auteurs nous disent que, alors que normalement ici-bas on ne peut pas voir Dieu sans mourir, que saint Paul aurait eu lui cette expérience. Donc il a eu comme un flash, bon, le bon Dieu l'a maintenu dans l'existence en lui permettant de voir ce que c'est que le paradis, ce que c'est que le ciel. Alors il a attendu 14 ans avant de nous en parler déjà, donc vous voyez, c'est pas tout de suite, hey, les gars, vous avez vu, c'est bon, pas du tout. 14 ans plus tard, saint Paul va nous dire, va nous faire une révélation, la révélation de ce qu'il a pu goûter donc ce jour-là. Que nous dit-il? Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé à ceux qu'il aime. Merci saint Paul, beaucoup plus avancé. Alors, en fait, oui, d'une certaine manière, parce que c'est très beau de voir que, précisément, saint Paul nous invite par là à penser que le ciel est infiniment plus beau que tout ce qu'on peut imaginer. Et donc ça, c'est déjà très consolant pour nos âmes, même si on n'est pas capable d'avoir une appréhension directe, vous voyez. Et là, on verra encore le décalage, par exemple, entre le paradis catholique et le paradis musulman. Vous voyez, eux, ils ont un paradis charnel qui ne veut rien dire du tout. Et ça, c'est vraiment une note juste. On arrive au mystère et c'est normal. Le vrai Dieu est un Dieu qui est infiniment au-dessus de nous et en même temps infiniment proche de nous. Alors je terminerai ici cet aspect de notre étude de Dieu par les réflexions de Don Guilleran. N'aurais-je pas dû commencer par là et me contenter de ce regard qui, impuissant à tout dire et à distinguer dans cette beauté si pleine, admire tout en bloc et jette sa louange comme un bouquet à celui qui l'adore. Mais vous n'êtes pas même un bouquet, vous n'êtes pas composé. Toutes les fleurs sont en vous, mais elles ne sont qu'une fleur, et c'est à cette fleur que je m'adresse. Donc ici, Don Guilleran s'arrête à un aspect que je n'ai pas souligné, c'est le fait de la simplicité de Dieu. Dieu est simple, ça veut dire qu'il n'est pas composé, voyez. Je parle de la puissance de Dieu ou de la bonté de Dieu, mais Dieu est à la fois puissant et bon, et il n'est pas d'un côté puissant, d'un autre côté bon. Il est à la fois juste et miséricordieux, et donc tous ses attributs sont un en lui. Donc nous-mêmes, nos qualités sont diverses en nous et s'ajoutent en quelque sorte à notre être. En Dieu, elles s'identifient à Dieu lui-même et ne forment qu'une, ne sont qu'un avec Dieu. Donc Dieu est tout ce qu'il a. Un homme, par exemple, on va dire quand on dit qu'il est bon, ça veut dire qu'il a de la bonté, mais il n'est pas la bonté, parce que Dieu est la bonté. Quand on dit qu'un homme ensuite aussi, il est puissant celui-là, ça veut dire qu'il a de la puissance, il a une certaine puissance. Mais Dieu est la puissance même. Dieu est la miséricorde. Il n'a pas la miséricorde, il est la miséricorde. Tous les attributs en Dieu s'identifient à ce qu'il est. Et là encore, c'est un ordre qui ne nous est pas commun, qui ne nous est pas familier, parce qu'il n'y a aucune créature qui soit dont les qualités s'identifient à leur être. Nous, nos qualités s'ajoutent à notre être en Dieu, elles s'identifient à l'être qu'il est. Et c'est pourquoi Don Guilleran poursuivait ses réflexions en disant « Vous êtes la beauté qui a fait les beautés et qui s'est reproduite en elles. Elles ne sont que le reflet de vous en elles. Vous en êtes le principe, vous êtes le principe de toutes ces perfections. Elles viennent de vous, elles vont à vous. Elles vous montrent à nous, elles nous attirent à vous. Elles sont les lumières qui vous font voir, ou mieux, entrevoir. » Donc ce que je peux saisir de Dieu par la créature, par la création, me fait simplement entrevoir qui est Dieu. On ne peut pas voir ce qui est Dieu à partir de ce que l'on peut connaître de lui dans la nature, mais on peut entrevoir. Et ce qu'on peut entrevoir, c'est déjà cela. C'est tout ce qu'on peut déjà découvrir de Dieu, même si c'est très imparfait, c'est déjà magnifique de pouvoir le faire. Ce que vous avez répandu de vous dans vos œuvres, poursuit Don Guilleran, mais précieux cependant, elles ne vous représentent que de très loin, elles ne sont que de pâles ombres. Elles vous représentent néanmoins, elles me font penser à vous. Elles me font penser à vous. Et c'est là, vous voyez, qu'il faut essayer, ce serait une grâce à demander au cours de cette retraite, de purifier votre regard sur Dieu, sur vous-même, sur le prochain, et même jusque sur la nature, jusque dans la nature. Vous pouvez constater que certains se moquent de Saint-François avec ses petits oiseaux, ou de Sainte-Thérèse aussi avec ses petites fleurs, mais en réalité, les saints, justement, tous les rapprochaient de Dieu. Voyez, et ils se servaient ainsi de la nature pour remonter à Dieu. La nature devrait nous faire penser à Dieu. Et je ne sais pas si vous avez constaté, ceux qui ont déjà fait des retraites, qu'il arrive qu'après une retraite, on revoit la nature différemment. On goûte encore plus profondément la beauté de la nature. Et c'est normal. Parce qu'en se rapprochant de Dieu, Dieu nous fait mieux saisir ce qu'il a laissé en lui dans la nature. Elles vous représentent néanmoins, elles me font penser à vous. Leur insuffisance me dit ce que vous n'êtes pas, leur réalité me donne quelque idée de ce que vous êtes. Votre ombre, qui en elle me parle, est un voile traversé par votre lumière si belle. Et si je ne sais pas qui vous êtes en les voyant, je sais que vous êtes. Et je vous bénis de les avoir fait être, en attendant de vous chanter avec elles dans la lumière vraie qui se cache en elles. Donc il parle un petit peu d'ombre, et c'est vrai. C'est un petit peu l'ombre de Dieu, on peut dire, qui est présente dans la créature. Donc grâce à cette étude, voyez, on a pu entrevoir qui est Dieu. Et cela me semble très utile, spécialement pour nous aujourd'hui, parce que l'homme moderne a perdu le sens de la grandeur de Dieu. Et l'intérêt de cette étude, c'est donc de nous donner une assise à notre foi, parce que, comme je vous le disais, qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, que les récoltes soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, que je sois malade ou en bonne santé, c'est la nature me révèle Dieu, me révèle que Dieu existe. Donc je n'ai pas à mettre en doute l'existence de Dieu, quoi qu'il se passe dans ma vie. Parce que là, je n'ai fait appel ici qu'à la raison. Et donc, notre raison nous dit que Dieu existe. Donc ma foi n'est pas stupide, elle s'appuie sur la raison. Et le deuxième aspect, c'est que on voit dans cette étude qu'on peut arriver donc à discerner déjà quelque chose de Dieu, mais en même temps, on aboutit au mystère. Et donc, ça peut nous aider, cette étude, à nous faire une idée de la grandeur de Dieu. Et donc, vous pouvez par vous-même, après, vous arrêter à ce double aspect, arriver par vous-même à réfléchir à la toute-puissance de Dieu, en vous arrêtant à une créature que vous appréciez peut-être davantage, ou vous connaissez mieux, et de là, essayer de remonter au Créateur. Ou également, faire la même chose pour la bonté. Alors maintenant, dans un deuxième temps, je vais être assez bref, on va faire un retour sur nous-mêmes. Comme je vous ai dit, le but d'une retraite, c'est de nous rapprocher de Dieu, et après, une fois qu'on connaît mieux, on arrive à mieux se connaître par rapport à Dieu. C'est certain que lorsqu'on porte un regard juste sur Dieu, spontanément, notre âme est d'abord frappée par sa grandeur. On se sent tout petit, je dirais, quand on essaie un petit peu d'apercevoir qui est Dieu. Et la tendance de l'homme moderne, qui ne nous touche peut-être pas directement, mais qui pourrait peut-être toucher quand même certaines d'entre vous, c'est clair en tout cas que c'est la tendance de l'homme d'aujourd'hui, c'est de vouloir discuter d'égal à égal avec Dieu, voyez. Mais dès qu'on voit cette grandeur de Dieu, ben notre premier réflexe est de nous plonger dans la plus profonde adoration. Et c'est ce qui explique que les auteurs, par exemple, spirituels de l'école française, comme le père de Bérulle, par exemple, ou le père de Condrin, ou encore même des grands mystiques comme sainte Thérèse d'Avila, ou même sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, plus proche de nous, nous demandent de nous anéantir devant Dieu. Nous anéantir devant Dieu, ça ne veut pas dire, si vous voulez, détruire notre personnalité, pas du tout. Ça veut dire tout simplement reconnaître que nous ne sommes rien par nous-mêmes. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu ? C'est vrai que vous avez des dons, et des dons réels, et que vous devez faire fructifier. Donc nier ces dons, c'est une erreur. Mais les attribuer à vous-même, c'est une autre erreur. Et cette erreur est une erreur grave parce qu'elle nous fait voler par là la gloire de Dieu. Normalement, c'est Dieu qui doit être honoré. Et plus vous avez reçu de dons, et plus au contraire, vous devez honorer Dieu. Et non pas essayer de retenir une certaine satisfaction personnelle de ce que vous avez reçu. On voit bien que cet anéantissement ne signifie pas donc une destruction, mais signifie tout simplement un juste abaissement devant les grandeurs de Dieu. Monseigneur Lefebvre aimait à dire souvent que nous vivons, hélas, tous, hein, nous vivons, hélas, trop souvent dans l'illusion, parce qu'on a tendance à se prendre un peu pour ce que l'on n'est pas. Alors, dès qu'on approche de Dieu, spontanément, on se remet à sa place. Regardez, par exemple, le mystère de la transfiguration. J'aime beaucoup ce mystère parce qu'il nous révèle les deux aspects qui sont présents en Dieu et que je veux vous faire découvrir au cours de cette retraite. Dans ce mystère de la transfiguration, on voit apparaître d'une façon très claire cette intimité que Dieu veut avoir avec nous, au point que saint Pierre dit, en voyant notre Seigneur transfiguré, qu'il est bon, qu'il est doux pour nous, Seigneur, d'être ici avec vous. Si vous voulez, restons ici trois tentes, donc une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. Donc on voit très bien que saint Pierre a goûté cette intimité, de cette présence divine. Mais dès que la voix du Père va se faire entendre en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé », eh bien, tout de suite, ils vont se mettre la face contre terre. Vous voyez ? C'est la réaction spontanée. C'est pas dire « Ah, enfin, Dieu est là, je vais pouvoir discuter avec lui ». Pas du tout. Vous voyez ? C'est pas du tout l'attitude des apôtres. Et donc, c'est très important pour nous parce que dans votre vie, vous avez des croix, vous avez des épreuves. Et spécialement, c'est dans l'épreuve que là, on comprend pas ce qui se passe. Et donc, on veut que Dieu nous explique. Donc, c'est l'attitude normale, enfin l'attitude spontanée, disons. Pas forcément normale, mais spontanée. C'est que Dieu nous explique pourquoi il m'arrive cette épreuve. Mais qui on est par rapport à Dieu ? Donc, Dieu sait mieux que nous ce qui nous convient. Donc, il faut plutôt demander la grâce de la soumission au plan de Dieu, mais ensuite, l'explication, elle ne viendra pas sur le moment. Toutes celles d'entre vous qui ont eu de grosses épreuves le savent. L'explication d'une grosse épreuve ne vient pas au moment de la grosse épreuve. Les explications viennent après. Parfois, c'est 5 ans, 10 ans, ou peut-être même, bon, on n'a pas forcément toujours la clé, toujours ici-bas, on l'aura au moins dans l'au-delà. Mais la clé ne vous est pas donnée au moment de l'épreuve. Au moment de l'épreuve, c'est l'obscurité, pour tous, même pour la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, lorsqu'elle a été éprouvée que notre Seigneur est resté au Temple, eh bien, réflexion de la Sainte Vierge, pourquoi avez-vous agi ainsi avec nous ? Pourquoi ? Une grosse épreuve vous tombe dessus, pourquoi ? Notre Seigneur sur la croix, Dieu se cache. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Pourquoi? C'est la question qui vient toujours, une grosse épreuve, pourquoi? Et il n'y a pas la réponse. La Sainte Vierge, donc, quand elle dit ça à notre Seigneur, que lui répond notre Seigneur? Attends, je vais t'expliquer, donc, calme, voilà. Pas du tout, hein. Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Donc, il répond à une question en posant une autre question. Non, il n'a pas répondu à la question que j'ai posée. Vous n'avez pas bien compris. En fait, non. Vous voyez, notre Seigneur étant Dieu, il répond à une question en posant une autre question. Donc, on ne se place pas au même niveau. Quand Dieu n'est pas un homme. Donc, très souvent, le bon Dieu nous le dit, ça. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant le ciel est au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Autant le ciel est au-dessus de la terre. Vous êtes arrivé à toucher le ciel, vous ? Moi pas. Eh bien, donc, vous voyez, c'est ce qui explique qu'il y a un décalage immense, infini, entre la façon dont Dieu... la façon de voir du bon Dieu et la nôtre. Alors, le bon Dieu, d'une certaine manière, il s'est fait homme, et même d'une certaine manière, il s'est fait très humain avec nous. On le voit dans l'Évangile. Mais à d'autres moments, il reste Dieu. Et donc, il se montre aussi en tant que Dieu. Et c'est spécialement dans l'épreuve que là, on est dans cette fameuse obscurité où Dieu révèle sa transcendance. Donc quand Dieu révèle sa transcendance, ce qu'il faut, c'est se soumettre. Et si on se soumet, après on a la lumière. Et si on refuse de se soumettre, eh bien on se cabre, on se braque, mais l'épreuve reste là. Et en ce moment-là, on souffre comme le mauvais larron, au lieu de souffrir comme le bon larron. Donc première réaction, me semble-t-il, voyez, quand on arrive à avoir ce sens de la grandeur de Dieu, d'abord l'adoration. Ensuite, deuxième réaction, qui est la conséquence, qui est dans la même ligne, c'est la soumission. Soumission au plan divin. Et on voit bien, dans la vie, si vous voulez, tous, hein, un jour ou l'autre, on a une grosse épreuve qui nous tombe dessus, ou un choix très difficile à faire. Et c'est à ce moment-là qu'il faut demander au bon Dieu la grâce de réagir surnaturellement. Je prends l'exemple des anges, ils ont eu leur épreuve, et l'épreuve des anges, très probablement, d'après ce que disent beaucoup de théologiens, c'était que Dieu se fasse homme. Or, quand on voit Saint-Michel, quand on voit, pardon, Lucifer, qui était le plus beau des anges, il y avait personne au-dessus de lui, il n'y avait que Dieu. Et on lui a dit que Dieu allait se faire homme. Alors que Dieu se fasse homme, c'est comme si on disait, pour nous, que Dieu allait se faire ver de terre. Donc, en voyant une chose pareille, que Dieu allait se faire homme, il dit « Ah non, ça c'est pas possible, une chose pareille. » Et donc, il s'est braqué. Et le résultat, ben, c'est qu'il a été plongé en enfer. Et la réaction de Saint-Michel, « Quis sunt Deus ?» Qui est comme Dieu ? Si Dieu décide de venir sur la terre pour racheter les hommes, qui je suis moi, je suis cette simple créature, c'est pas moi qui me suis fait moi-même. Donc, le gros problème de Lucifer, c'est qu'il s'est complu en lui-même. Il avait de très grandes qualités, c'est le plus beau des anges. Mais il s'est complu en lui-même, et il a voulu arriver à sa fin par ses propres forces, au lieu de se soumettre au plan de Dieu. Donc quand il y a une grosse épreuve, vous voyez, il n'y a que deux attitudes possibles. Une attitude, c'est la soumission. Et donc là, il n'a pas, si vous voulez, on voit bien que Saint-Michel n'a pas dit « Oui, mais en fait, je vais t'expliquer pourquoi. » Non, pas du tout. Il n'a pas forcément compris pourquoi. Et puisque le bon Dieu lui demande, on se soumet. Quis sunt Deus, qui est comme Dieu ? Un autre exemple, c'est l'exemple de Job. Job, qui est un modèle de fidélité à Dieu et qui est accablé de toutes sortes d'épreuves. Épreuves dans, donc d'abord d'ordre temporel, ces animaux qui crèvent les uns après les autres, épreuves dans sa maison qui s'effondre, épreuves de ses enfants qui meurent, et il se retrouve ensuite malade lui-même sur un tas de fumier, avec sa femme qui lui fait des reproches. Et au plus fort de l'épreuve, à un moment donné, n'en pouvant plus, il demande au bon Dieu, justement, des explications. Parce que dans l'Ancien Testament, en plus, notre Seigneur n'était pas encore venu sur la terre. Donc, pour eux, c'était très clair que si on avait des maux sur la terre, c'est le signe qu'on avait péché. Donc, lui, il dit, moi, je n'ai pas péché. Bon, pas plus que les autres, en tout cas. Je n'ai pas péché et je suis puni. Alors, pourquoi ? C'est pas juste. Dieu n'est pas juste. Il y a une injustice parce que je vois que je n'ai pas commis le mal. Les autres vivent comme des patachons, et eux, ils ont une vie qui semble beaucoup plus glorieuse que la mienne, et la chance leur sourit, ils ont tout ce qu'ils veulent, et moi, qui suis fidèle à Dieu, il m'arrive tuile sur tuile, alors que Dieu m'explique, c'est pas normal. Et à la fin du livre de Job, mais justement, Dieu va intervenir. Mais alors là encore, il va lui poser des questions. Donc, il ne va pas répondre, il va dire, je vais t'expliquer, en fait, ne t'inquiète pas, non, pas du tout. Il lui pose des questions simplement en lui montrant précisément la beauté de la création et la grandeur de la création. Donc, Dieu intervient en lui disant, lorsque j'ai créé les étoiles, lorsque j'ai créé le monde, lorsque j'ai établi toutes les lois de la nature, est-ce que j'ai dû faire appel à toi pour te demander conseil, pour savoir comment agir ? Yahvé répondit à Job du sein de la tempête et il dit, quel est celui qui obscurcit ainsi le plan divin par des discours sans intelligence ? Saint-Terrain, comme un homme, je vais t'interroger, tu m'instruiras. Où étais-tu quand je posais les fondements de la terre ? Dis-le si tu as l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions ? Le sais-tu ? Qui a fermé la mer avec des portes quand je lui imposais ma loi ? Es-tu descendu jusqu'aux sources de la mer ? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme ? Es-tu entré dans les trésors de la neige ? As-tu vu les réservoirs de la grêle ? Connais-tu toutes les lois du ciel ? Règles-tu ses influences sur la terre ? Est-ce toi qui donnes au cheval la vigueur ? Est-ce par ta sagesse que l'épervier prend son vol ? Le censeur du Tout-Puissant veut-il encore plaider contre lui ? Celui qui dispute avec Dieu peut-il répondre ? Alors réponse de Job, « Chétif que je suis, que vous répondrai-je ? Je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répliquerai pas, deux fois, je n'ajouterai rien. » Donc, dès que Dieu révèle ainsi sa grandeur, ben, du coup, ben, Job, il se met à sa place. Et comme il se met à sa place, ben, le bon Dieu va le récompenser en lui redonnant ce qu'il avait perdu. Donc, face à la, quand une grosse épreuve vous tombe dessus, donc, arrive la question du pourquoi. Mais à ce moment-là, ne réagissons pas comme Job avait réagi en ce moment-là. Comprenons que les desseins de Dieu ne sont pas les nôtres. Et ça, c'est vrai pour tout. Dans le Nouveau Testament, on retrouve exactement la même chose. L'annonce du mystère de la Sainte Eucharistie. Notre Seigneur annonce pour la première fois qu'il va se donner en nourriture. Donc, pour nous, c'est facile. On sait très bien, on a appris ça depuis tout petit, que notre Seigneur se donne à nous en nourriture sous forme d'une hostie, qui sont des petites hosties blanches, faites par des bonnes carmélites, bon, etc. Bon, très bien. Mais à ce moment-là, ce n'était pas comme ça. Donc, c'était notre Seigneur annonce qu'il va se donner à nous en nourriture. Et de quelle manière il l'annonce ? Je suis le pain de vie, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour le salut du monde. Je vais donner ma chair pour le salut du monde. Alors en ce moment-là, tout de suite, ben, les Hébreux, en plus, ils sont très, ils voient les choses d'une façon très matérielle. Donc ils se disent, ça y est, c'est l'anthropophagie. Tout de suite, réaction naturelle. Alors ils se disputaient entre eux pour savoir, mais c'est pas possible, une chose pareille, mais là il déraisonne aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors en ce moment-là, que fait notre Seigneur? Notre Seigneur aurait très bien pu dire, mais attendez, on se calme, je vais vous expliquer, en fait c'est la transsubstantiation, donc c'est changement de substance avec persistance des accidents. Donc ce sont des petites hosties comme ça, donc ne vous inquiétez pas, saint Thomas expliquera ça très bien, mais ne vous inquiétez pas. Pas du tout. Notre Seigneur, vous voyez, quand il annonce un mystère, ce qu'il veut c'est la soumission. Donc il acte d'autorité. En vérité, je vous le dis. Dans cette formule-là, vous voyez, c'est en vérité, je vous le dis, c'est faites-moi confiance. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez de son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Et alors, en entendant ça, alors, donc, en ce moment-là, beaucoup de disciples ont abandonné notre Seigneur. Et notre Seigneur les a laissés partir. Hein. Il s'est simplement tourné vers les apôtres. Ils ont dit, est-ce que maintenant vous aussi, alors, est-ce que vous allez m'abandonner maintenant ? Réponse des apôtres, des réponses de Saint-Pierre au nom des apôtres, à qui irions-nous? Vous avez les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Vous êtes Dieu, vous savez mieux que nous quel est le meilleur moyen pour sanctifier. Si vous me dites que pour me sanctifier, je dois recevoir votre chair, eh bien, je me soumets à votre plan divin. Et si vous voyez maintenant l'annonce de la Passion, alors qui est le grand mystère hein, qui nous touche tous, parce que ce sont nos épreuves qui sont présentes aussi par derrière. Lorsque notre Seigneur annonce pour la première fois sa passion, il va l'annoncer en termes là très clairs et pas du tout voilés. Notre Seigneur parlait souvent en parabole, mais quand il annonce sa passion, il est très clair. Il annonce qu'il va être flagellé, qu'on va le couronner d'épines, qu'il va mourir, qu'il va ressusciter le troisième jour. Bon, il annonce son plan d'une façon très claire. Eh bien, Saint-Pierre, qui avait une nature prime sautière, qui répondait souvent du tac au tac, tout de suite, dès que notre Seigneur dit cela, Saint-Pierre aimait beaucoup notre Seigneur. Alors, notre Seigneur qui annonce qu'il va ainsi être crucifié, il aime tellement notre Seigneur qu'il lui dit, « Non, non Seigneur, cela ne vous arrivera pas. » Et que lui répond notre Seigneur? Si Saint-Pierre sait parler du tac au tac, notre Seigneur aussi, notre Seigneur lui dit, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un risque de chute, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles d'un homme. » Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles d'un homme. Donc, vous voyez, si lorsque notre Seigneur nous annonce un mystère, on n'est pas au même niveau. Nous sommes des hommes. Il est Dieu. Donc nous devons nous soumettre à ce plan divin. Donc voilà. Conclusion donc sur ce que je voulais vous dire ce matin. Cette approche que j'ai voulu vous faire de Dieu donc a pour but, comme je vous ai dit, donc d'asseoir votre foi sur la raison, a pour but de vous donner une certaine notion de la grandeur de Dieu notamment pour vous aider à vous mettre à sa juste place devant lui. Donc, cette connaissance nous est très utile parce qu'elle nous permet de comprendre cette grandeur de Dieu, cette majesté de Dieu, cette transcendance de Dieu. Et elle est particulièrement nécessaire aujourd'hui à l'homme moderne en raison de la mentalité d'aujourd'hui où l'homme a tendance à vouloir discuter d'égal à égal avec Dieu. Mais maintenant, si cette connaissance donc nous est très utile, il faut apprendre, donc, c'est la conséquence de cette approche, imiter la Sainte Vierge qui a su, vous voyez, suspendre son jugement lorsque notre Seigneur, eh bien, s'est caché pendant 3 jours. Elle ne s'est pas révoltée une fois qu'elle a retrouvé son Fils. Lorsque notre Seigneur a dit « Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» la Sainte Écriture dit que la Sainte Vierge, loin de se révolter, s'est contentée de conserver tout cela dans son cœur. Donc elle a suspendu son jugement, pendant les grosses épreuves, on suspend son jugement et elle conservait tout cela dans son cœur. Donc au moment de l'épreuve, c'est ce qu'il faut faire. Donc si cette approche de Dieu nous est très utile, elle est malgré tout insuffisante pour goûter toute l'intimité que Dieu veut avoir avec nous. Et donc là, ce sera plutôt l'objet, me semble-t-il, de la conférence que vous aurez, donc je crois que c'est à 17h ce soir, 17h30, sur notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sera le pendant un petit peu de cette conférence. Donc le but de cette conférence, c'est surtout vous faire saisir la grandeur de Dieu. Maintenant, il ne faut jamais séparer cette grandeur de Dieu de cette intimité que Dieu veut avoir avec nous. Et cette intimité, on peut la goûter, notamment par en contemplant notre Seigneur fait homme, en voyant notre Seigneur dans la crèche, en le voyant donc petit enfant pour nous, en le suivant pas à pas durant sa vie publique, en écoutant ses instructions, en le voyant ensuite jusque dans sa passion, et après dans sa résurrection. À ce moment-là, nous pouvons goûter cette intimité qu'il veut avoir avec nous. Donc, essayez de profiter du temps libre. Vous avez un temps libre maintenant jusqu'à 11h pour méditer un petit peu sur ces quelques réflexions que j'ai voulu vous faire ce matin. Et puissiez-vous répéter vous-même, après le psalmiste, ce passage du psaume 8, « Qu'est-ce que l'homme pour que vous vous souveniez de lui ? Comment Dieu qui est si grand peut-il s'intéresser à moi ? Comment a-t-il pu s'abaisser jusqu'à moi ? Comment ce Dieu si grand a-t-il pu accepter de prendre une nature humaine comme la nôtre pour me sauver ?» Et touché par cet amour de Dieu, eh bien, tâchez au cours de cette retraite de répondre à l'amour par l'amour. Donc nous allons nous rendre à la chapelle pour la, comme l'on fera habituellement, pour une espèce de conclusion, si vous voulez, devant le Saint-Sacrement.